Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, on va réaliser un nouvel épisode consacré à des articles du site web du blog Septum. Donc évidemment, Thomas Guillaume est avec moi. Bonjour.
Salut.
Voilà, alors le thème du jour, les articles, en fait il y en aura deux qui ont été sélectionnés, mais ces deux articles qui se répondent, ce sont des articles sur qui ont trait au féminisme, particulièrement à la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Mais avant qu'on discute de ça, je voulais quand même préciser, faire un peu de housekeeping. J'ai débuté une page sur un site web qui s'appelle patreon.com. Et donc c'est un système qui est un peu similaire à Kickstarter. Donc si vous êtes vraiment un fan du balado et que vous voulez m'aider financièrement en fait pour le balado, pour les frais liés à la réalisation du balado, vous pouvez aller sur Patreon. Et il s'agit d'un système où les gens qui deviennent font une donation mensuelle, hein, donc faites bien attention, c'est mensuel. Par exemple, vous pouvez décider de donner 1$, 100$, mais voilà quoi, 1$ par mois, donc en un an vous donnez 12 mois. Et en fait c'est pour aider les créateurs de contenu internet avec les frais, et puis aussi pour les encourager, hein. Parce que j'ai été assez surpris, j'ai créé cette page Patreon en novembre, j'en ai même pas encore parlé sur le balado parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion en fait, mais j'ai déjà eu des différents dons, et donc je voudrais remercier donc Pierre, Jérémy, Serge, Alain et Thomas qui ont fait des dons. Donc voilà, il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des... Donc qui sont mis comme patrons, hein, comme... comment dire en français, patron ?
Mécènes.
Mécènes, ouais, c'est le meilleur pour le podcast. Et donc voilà, si vous voulez soutenir le boulot que je fais, tant au niveau... il y a les frais informatiques, hein, le hosting, etc. Mais aussi, évidemment, si jamais on dépasse... Pour l'instant, on n'a pas dépassé les frais de hosting, etc. Mais si jamais on dépassait, évidemment, tout cet argent irait dans mes activités sceptiques. Hein, vous savez que j'en ai, évidemment... Au niveau des frais, il n'y a pas que le hosting, il y a aussi le hardware, et puis il y a Scepticopub, etc. Donc, bah, si vous voulez contribuer à ce qu'on fait, à Scepticisme scientifique, bah, n'hésitez pas à devenir patron. Donc, je rappelle, c'est sur patreon.com, donc patreon.com, comme évidemment. Voilà. Et alors, en fait, il y a des seuils, hein, donc si vous mettez... un certain nombre de dollars, vous recevrez un exemplaire de mon livre sur la croyance paranormale. Donc Pierre devrait déjà avoir reçu son exemplaire. Et alors il y a ce qu'on appelle des stretch goals, hein, pour ceux qui connaissent Kickstarter, c'est-à-dire que si on atteint certaines sommes, on fera des choses en plus, hein. Donc pour l'instant, le seul que j'ai mis, c'est $30 par mois. Si on atteint $30 par mois, tous combinés évidemment, ben, je me mettrai à faire 4 épisodes par mois au lieu de 3 comme c'est le moment. Et puis on fera d'autres, j'ai des idées, mais on mettra des stretch goals au fur et à mesure qu'on les atteint. J'ai des idées en fait. Puis peut-être que Thomas en aura. Mais...
ben là je suis papa d'une petite fille de 2 mois, donc là mes mains sont bien pleines pour l'instant, mais oui, peut-être après.
Oui, si on attend $35, Thomas s'engage à transcrire 10 articles par semaine.
Je me suis déjà fixé un objectif de 4 par mois depuis le mois d'octobre. J'essaie de m'y tenir, c'est pas toujours évident, mais voilà.
Voilà, donc de temps en temps je l'évoquerai, surtout que justement un des cadeaux pour les gens qui mettent une certaine somme, c'est que je les remercierai officiellement sur le podcast, comme je l'ai fait pour les 5 personnes qui ont fait un don. J'en reparlerai de temps en temps. Voilà, donc les deux articles, c'est sur la différence de salaire chez les hommes et les femmes. Et donc. Thomas avait traduit un article d'abord de Christina Hoff Sommers et un article de réponse. Je laisserai un peu décrire le contenu des articles, mais rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Christina Hoff Sommers, en fait, c'est une. Elle est diplômée en philosophie et elle est connue pour ses critiques du féminisme. Elle a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, comme Who Stole Feminism, qui a volé le féminisme, How Women Have Betrayed Women, comment les femmes ont trahi les femmes, voilà, ou The War Against Boys, hein, la guerre contre les garçons. Et elle se décrit comme une féministe équitable, donc par contraste avec ce qu'elle appelle le féminisme de genre, etc. Bon, évidemment, beaucoup de gens considèrent qu'elle n'est pas une féministe, ça c'est le principe du No Truth Scotland, hein. Elle n'est pas une vraie écossaise, hein. Puisqu'elle critique les autres féministes en général. Les gens vont dire que c'est pas vraiment une féministe, même si elle se décrit comme cette féministe équitable. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore dire à son sujet? Oui, elle a une série de vidéos YouTube maintenant. Ah oui, elle fait une vidéo YouTube pour American Institute, qui est un think tank, je pense, conservateur. Alors, en général, c'est ça qu'on lui dit. On dit Christina Hoffsommer, elle est terrible, elle travaille pour le American Institute, c'est pas bien. Et donc, le deuxième article, c'est un article qui a été publié dans le Huffington Post, hein, et qui s'intitule « C'est un fait que les femmes gagnent moins que les hommes, arrêtez de discuter ». Et donc, c'est un article de Gillian Berman, en réponse à celui de Christine Hoffsommer. Je crois que c'est en fait mon article de Christine Hoffsommer, c'était aussi sur le Huffington Post, non? Les deux étaient au Huffington, je crois.
Non, c'était sur The Daily Beast.
The Daily Beast, ouais, c'est ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent, ces articles?
Alors, je vais commencer par le... en fait, avant peut-être juste de commencer à parler des articles, je voudrais juste faire un petit commentaire, parce que c'est un sujet, à mon avis, un peu controversé ou sensible. Donc, je voudrais quand même préciser que, bon, personnellement, j'ai approché la chose de façon un peu naïve. C'est pas, le féminisme n'est pas un sujet qui m'intéresse vraiment, et qu'il n'y a pas énormément de lien avec le scepticisme. Donc je ne pensais pas que ça serait un jour un sujet de mon blog. C'est juste que j'étais tombé sur l'article de Sommers, que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout. Et je trouvais ça intéressant parce que... et là, je vais toucher un mot l'article. Donc en fait, Sommers part en fait d'une affirmation du président Obama qu'il a faite lors de son discours sur l'état de l'Union. Et c'est sur une statistique de différence salariale entre hommes et femmes. Et Sommers la critique, disant qu'elle est fausse, et elle amène... voilà, toute une série d'arguments factuels pour le montrer. Et donc, voilà, j'ai trouvé intéressant l'approche dans un sujet qui n'est pas lié au scepticisme en soi, à la base, qui n'est pas vraiment un sujet qu'on trouve souvent dans le milieu sceptique, mais de l'approcher avec un esprit critique, un esprit sceptique. Donc voilà, mais même si les chiffres sont corrects, je ne sais d'ailleurs pas s'ils le sont vraiment, à vrai dire, hein, mais même s'ils le sont, je voulais quand même préciser que c'est pas une attaque contre le féminisme. Voilà, s'il existe effectivement une différence salariale, moi je la trouve parfaitement scandaleuse. Mais c'est important de savoir exactement quelle est-elle et à cause de quoi. Parce que ce serait un peu idiot d'aller prendre des mesures politiques, par exemple, contre la discrimination s'il n'y a pas de discrimination en premier lieu. Bref, je ferme la parenthèse, je reviens sur l'article. Donc, comme je le disais, Sommers reprend donc une affirmation du président Obama lors d'un de ses discours, et cette affirmation dit que les femmes gagnent 77 centimes pour chaque dollar que gagnent les hommes. Et c'est une statistique qui est, d'après Sommers, tout à fait discréditée. Cette différence de salaire de 23 centimes est en fait la différence entre les revenus moyens de tous les hommes et de toutes les femmes qui travaillent à temps plein, mais qui ne tiennent pas du tout compte d'un tas de facteurs confondants. Et c'est ce que Sommers essaie d'expliquer. Elle explique notamment que ça ne tient pas compte des différences des postes, des positions, de la formation ou de l'ancienneté, ou même des heures prestées par semaine. Et que quand on tient compte de tous ces facteurs pertinents et qu'on analyse la situation, l'écart se réduit à environ 5 centimes. Et alors, c'est là que... Alors, là-dessus, personne ne critique vraiment cette analyse, parce que même l'autre article est d'accord avec ça. Ils prennent des sources qui disent à peu près la même chose. Mais la grosse différence entre celui-ci et l'article de Sommers et celui de Berman, c'est que Sommers dit... qu'on n'est pas sûr si ces 5 centimes résiduels, ces différences, qui n'est a priori pas vraiment expliquée, est le résultat d'une discrimination, vraiment, ou bien d'autres différences qui seraient éventuellement difficiles à mesurer. Et il y en a effectivement peut-être. Elle cite par exemple... elle cite comme argument principal la question du choix, simplement. Elle dit que simplement les femmes ont des tendances à choisir d'autres métiers que les hommes, et il se trouve que ces métiers en question sont en moyenne moins bien payés. Elle cite une liste de 10 diplômes. J'ai malheureusement pas pu aller trouver la source parce que le lien qu'elle donne est mort, donc ça mène nulle part. Mais c'est un PDF qui, un fichier PDF, un rapport en fait qui a été compilé par le Centre universitaire sur l'éducation et le travail de Georgetown University. Et donc ça donne les 10 diplômes qui rapportent le plus, et je vous les liste ici. On a l'ingénierie pétrolière, les sciences pharmaceutiques, les mathématiques, l'ingénierie aéronautique, l'ingénierie chimique, l'ingénierie électrique, l'architecture navale, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie métallurgique et l'ingénierie des mines. Donc beaucoup de métiers d'ingénieurs, ça ce sont les 10. Et si on regarde en fait la proportion des hommes dans ces métiers, ils sont majoritaires, dans presque tous sauf un qui sont les sciences pharmaceutiques. En fait, les sciences et administration pharmaceutique, donc ça peut couvrir plusieurs choses. Et on a typiquement des chiffres de pourcentage d'hommes qui vont voilà, de 87%, 67%, 89%, 83%, 90%, voilà. Donc une grosse majorité d'hommes. Et quand on prend par contre les 10 diplômes les moins rémunérateurs, dont je liste, c'est la psychologie, l'enseignement maternel, la théologie, l'organisation communautaire et ressources humaines, le travail social, l'art dramatique, les arts du studio, la logopédie, les arts visuels et la santé et programmes médicaux. Et en fait, dans ces 10 métiers, les femmes sont majoritaires. Donc, l'argument de Summer, c'est de dire, voilà, une grosse partie de la différence salariale, ça va s'expliquer simplement en tenant compte des diplômes et donc simplement des choix de carrière que font les femmes par rapport aux hommes. Ce qu'elle dit sur ces choix, c'est qu'ils ont été donc largement étudiés, et donc ils sont bien documentés. Il y a toute une série de recherches qui sont faites là-dessus. Elle continue donc à s'étonner du fait que la Maison Blanche continue à utiliser des chiffres erronés. Elle pense qu'une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que la Maison Blanche est un peu sous la pression de lobbies d'organisations féminines. Elle cite notamment la National Organization for Women ou l'American Association of University Women, donc l'association américaine des femmes universitaires. Et cette organisation a notamment sorti un rapport en 2007 sur la question de la différence salariale. Et même ce rapport explique qu'une partie de l'écart salarial s'explique par les choix. Sauf que le contre-argument à ça, c'est que ces choix eux-mêmes sont contraints, sont quelque part, les femmes sont quelque part un peu enfermées dans des métiers de femmes. Et donc il y a même de la discrimination dans les choix à la base. Summers n'y croit pas vraiment, elle n'a pas l'air d'accepter ce genre d'argument. Elle trouve que, bon, évidemment, là, c'est pas vraiment une analyse factuelle, c'est plutôt une impression personnelle, il semble, mais pour elle, les femmes sont libres de leur choix. Voilà, elle trouve que les femmes américaines sont aujourd'hui parmi les femmes les plus éduquées, les plus autonomes, elles ont plein d'opportunités devant elles, et que, voilà, si elles ne prennent pas les métiers les plus rémunérateurs, c'est vraiment une question de choix. Elle cite quand même une statistique, mais j'ai pas pu aller la vérifier parce qu'elle donne pas de source pour cette stat, mais elle dit que selon des données du département de l'éducation, les femmes représentaient 19% des diplômes d'ingénieurs en 2000 et 28% pour les sciences informatiques, et qu'en 2011, ces chiffres étaient tombés respectivement à 17% et 18%, donc notamment pour les sciences informatiques, 10% de moins. Bon, je ne connais pas la source de ces chiffres, mais c'est vrai que c'est une tendance qui a l'air d'aller plutôt à l'encontre du mouvement un peu émancipateur des femmes, et que ce serait difficile à expliquer si ce n'était simplement une question de choix. Donc voilà, ça c'est en gros l'article de Summers. Elle termine aussi par une petite réflexion sur la Maison Blanche elle-même, puisque le staff féminin de la Maison Blanche gagne 88 centimes pour chaque dollar gagné par un homme. Donc elle se demande si la Maison Blanche a bien raison de faire cette critique.
Oui, en fait, la vidéo qu'elle avait faite pour l'American Institute, c'était exactement sur ce point-là spécifiquement. Je vais retrouver le titre parce que je l'ai regardé pour préparer l'épisode. c'était donc pour ceux qui voudraient, c'est sur le point sur la Maison Blanche. Hein. C'était donc The Gender Wage Gap uses bogus statistics. Donc c'est à peu près le même titre que ce, enfin c'est un sujet similaire dans cette vidéo. C'est donc l'écart entre les sexes au niveau du salaire utilise des statistiques erronées, mais dans cette vidéo-là, elle adresse principalement uniquement la vidéo, le dernier point évoqué à propos de la Maison Blanche, puisqu'évidemment, certains employés de la Maison Blanche ont été confrontés sur cette question-là, et évidemment, les employés de la Maison Blanche ont répondu oui, mais en fait, si on prenait toutes les variables en compte, ça annulerait l'effet, enfin, c'est juste un effet à statistique, mais en réalité, c'est lié encore une fois aux variables qui sont non contrôlées dans les statistiques, quoi. Et donc c'est parce qu'il y a des gens qui sont seniors, des gens qui sont, et c'est pas réellement lié au sexe. Son argument dans cette vidéo là c'est, mais oui, mais si la Maison Blanche utilise ce raisonnement là pour ces stats là pourquoi est-ce que Obama ressort cette statistique fausse dont on est en train de parler là, puisque finalement ça, c'est le même argument, c'est-à-dire que c'est toujours l'écart entre des salaires est lié en fait au fait qu'on n'arrive pas à contrôler toutes les variables qui interviennent, comme par exemple le choix des études ou le choix de la profession, quoi. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez ça facilement sur internet. Oui, la série de vidéos qu'elle fait, ça s'appelle The Factual Feminist, hein, le féministe factuel. Et alors l'article de réponse ?
Donc l'article de réponse, c'est un article de réponse direct. Hein, donc c'est vraiment donc Gillian Berman qui a repris l'article de Summers et qui le critique. Alors elle le critique pas de façon, elle va pas aller fact-checker tout ce que Summers dit. Parce qu'en fait elle est relativement d'accord sur l'analyse qui dit que quand on contrôle pour toute une série de facteurs relativement faciles à contrôler, on a cet écart qui se réduit à 5 centimes.
Et on ne sait pas à quoi est vraiment
voilà,
cet écart entre
voilà,
5 centimes. Quoi.
C'est ça. Et donc, ce que Berman dit, et sans doute les gens qui critiquent Summers disent, c'est que cette différence de 5 centimes ne peut être due que à de la discrimination.
Dans la vidéo dont je parlais, là, Summers dit clairement... Je n'affirme pas qu'il n'y a pas de discrimination, mais simplement qu'en fait on n'a pas de preuve d'un effet de la discrimination.
Ah oui, oui. J'ai pas vu ces vidéos, mais à vrai dire, c'est l'impression que j'avais en lisant son article et en le traduisant, c'est que elle prend pas position pour dire effectivement que ça n'existe pas.
Dans la vidéo, elle dit clairement, je n'affirme pas qu'il n'y a pas de discrimination.
C'est clair. Mais effectivement, moi, en lisant, j'avais l'impression qu'elle laissait la porte ouverte à l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs plus subtils, plus difficiles à contrôler, et qui pourraient expliquer éventuellement cette différence. Mais c'est pas l'idée de Berman, apparemment. Elle pense que vraiment il y a une question de discrimination, même dans la question du choix. Et donc, elle cite une série d'arguments dans ce sens, notamment que les milieux qui sont bien payés sont traditionnellement dominés par des hommes et donc tendent à être des endroits qui sont un peu hostiles pour les femmes. Ça, c'est son premier argument. Elle dit aussi que cette façon de se diriger vers des métiers qui payent moins bien, ça commence dès l'école, parce que dès l'école, il y a des clichés sexistes qui circulent, voilà, sur le fait que l'informatique, par exemple, c'est un métier d'homme, c'est un métier de geek, hein, que ça sert à rien. Enfin, c'est évidemment complètement idiot comme cliché, mais elle pense que ces stéréotypes sont présents et dominent un peu à l'école, et que ça pousse déjà les filles à choisir autre chose comme carrière. Elle critique bien sûr que le fait que les métiers de femmes, entre guillemets, sont moins rémunérateurs. Elle se demande en fait si ce sont les femmes qui choisissent des métiers qui payent moins bien, ou simplement si c'est la société en général qui paye ces métiers-là parce que ce sont des métiers de femmes. C'est une vraie question, parce que c'est vrai que historiquement on vient d'une époque où il y avait énormément de sexisme, et c'est une tendance qui diminue grandement. C'est difficile à dire aujourd'hui si ça perdure encore beaucoup. Il semblerait que oui, dans certains milieux. Mais donc c'est une vraie question. Mais c'est une question en fait extrêmement large. Hein. Il y a des tas de métiers, peu importe qu'ils soient faits par les hommes ou les femmes, on se demande pourquoi ils sont payés si peu alors qu'ils sont extrêmement importants. C'est une question largement plus grande que la question des hommes et des femmes, à mon avis.
Mais tout ça sont deux points très importants, je pense. Mais souvent, quand on discute de cette différence de salaire, l'argument, c'est que pour un travail équivalent et pour un nombre d'heures d'équivalente, la femme serait moins payée. Mais en fait, ici, c'est plus l'argument, quoi. Je veux dire, si un homme travaille dans les métiers mal payés, il sera... Enfin, il faudrait voir, ça, c'est la vraie question. Mais moi, j'ai souvent l'impression que le discours derrière l'idée qu'il y a une différence de salaire ou l'impression qu'on essaye de générer chez les auditeurs, c'est lié au fait que si l'homme fait exactement le même travail, il sera mieux payé juste parce qu'il est un homme, quoi. Je pense que, je veux dire, voilà, si on est un psychologue, enfin, je parle de psychologue évidemment parce que c'est un milieu que je connais bien, mais voilà, moi quand je vais à une réunion de doctorants à la fac, il y a 20 femmes et il y a moi dedans, hein. Je veux dire, c'est comme ça, hein, quand récemment j'ai postulé pour un job pour être prof de langue d'anglais chez des enfants de 5 ans et j'ai pas eu la place parce que j'étais un homme, ce qui m'a été clairement dit par l'entreprise, quoi. Je veux dire, si j'avais eu la place, j'aurais pas été mieux payé que si c'est une femme qui l'avait, quoi. Je pense que c'est quand même aussi une distance. Enfin, bon, c'est possible qu'aux États-Unis, je suis pas économiste ni politicien, qu'il y ait des situations où des femmes soient moins bien payées pour un job équivalent. Ou quand on aurait tout rendu équivalent, donc quand le travail est le même, le nombre d'heures est le même, etc., la femme serait quand même malgré tout moins payée, mais.
Ouais.
Voilà, quoi. C'est difficile à déterminer. Ici, les articles semblent concéder le fait que ce n'est pas le cas, quoi. Finalement, c'est une question de carrière, de choix de carrière.
De choix de carrière, mais pas seulement. Hein. Il y a d'autres petits... Avant de partir sur d'autres réflexions, juste pour terminer sur l'article de Berman, il y avait encore deux points qu'elle citait, dont un point qui est assez important et sur lequel je vais revenir après, c'est que les femmes prennent plus souvent des arrêts de travail, des pauses carrière. C'est particulièrement le cas en Amérique parce qu'ils ont très peu de programmes pour les congés de maternité, par exemple. Ils ont pas ça, en fait. Ils n'ont pas de congés de maternité payés. Ce qui veut dire que les femmes prennent un petit peu la position par défaut de, elles, prendre le congé de maternité. Ce qui veut dire qu'en fait, elles se retrouvent à la traîne, finalement, dans leur progression de carrière parce que, voilà, elles arrivent... Même si elles ont un salaire, un job équivalent à un homme, bah, au fur et à mesure du temps, elles vont devoir prendre plus de congés, vont avoir des enfants, et ça va jouer dans leur formation. Alors pas simplement parce que leur employeur va les discriminer contre ça, mais simplement, elles auront eu moins le temps d'avoir de l'expérience, de satisfaire des promotions, des choses comme ça. Et donc ce sont les deux derniers arguments de Berman, le fait qu'il y a ce problème des congés de maternité ou d'autres pauses pendant la carrière, et que ça a comme conséquence le fait qu'elles sont un petit peu à la traîne dans la carrière. Voilà, ça c'est un petit peu la substance des deux articles. Et alors, quand j'avais en fait traduit le premier article de Somers, je l'avais partagé sur le groupe Cététique, il y a eu pas mal de commentaires, certains ont partagé en réponse des articles qui répondaient, c'est comme ça que j'ai traduit le deuxième article de Berman, et en fait je trouvais ce sujet vachement intéressant, donc je pensais faire une série de 2-3 articles supplémentaires, parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, de sources intéressantes dans d'autres articles qui avaient été partagés. Bon, finalement le manque de temps et puis l'intérêt vers d'autres sujets fait que j'ai pas poursuivi, mais j'avais pris pas mal de notes. Malgré tout, sur les deux articles, j'avais essayé de voir un petit peu la qualité des arguments, en tout cas des deux articles que j'avais traduits. Et voilà, pour donner quelques exemples de choses critiques, si je reprends l'article de Berman, hein, donc il critique Summers, elle cite notamment, par exemple, à un moment donné, que sur la question un peu des choix, que les femmes, représente en fait 2/3 des travailleurs avec bas salaire. Ce qui du coup joue pas mal dans les statistiques, si on poule le tout, rien qu'à cause de ça, on va avoir une moyenne plus basse pour les femmes. Donc ça joue. Mais seulement, le problème, c'est que j'ai été lire la source qu'elle cite pour défendre ça. Et la source dit qu'en fait, c'est pas exactement tout à fait un problème des femmes qui sont présentes dans les travailleurs avec un bas salaire, c'est aussi le fait que ce sont des femmes de couleur. Et malheureusement, il n'y a pas que le sexisme qui existe dans le monde, et notamment aux États-Unis, mais aussi le racisme, et donc enfin le racisme, en tout cas une série de conditions socio-économiques qui font que voilà, les femmes de couleur.
Je crois qu'avec les derniers événements,
Oui, là évidemment, ça c'est on est en plein dedans, mais donc voilà, ça existe, mais donc, alors c'est un autre problème qui est au moins aussi grave, enfin on va pas comparer la gravité des deux choses, mais ça fausse la statistique parce que du coup, si ce sont majoritairement des femmes noires, et c'est parce qu'elles sont noires et non pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont des travailleurs à plus bas salaire, ça donne une statistique un peu biaisée. Bon. Évidemment, penser que c'est un peu les deux. Hein. Elles sont des femmes, elles sont noires, et les deux jouent un peu contre elles. Dans tous les cas, il y a la discrimination, c'est pas la question, mais si on veut approcher la chose la plus factuellement possible, il faut tenir compte de ce genre de facteurs. Un des arguments aussi de Berman qui dit que les domaines qui sont dominés par les hommes sont des lieux hostiles pour les femmes. Et alors, elle cite comme source en fait un autre article de. Attendez, je le retrouve. Un autre article qui a été publié sur le site de la. Je ne sais plus. De ABC News, voilà, de ABC News. Cet article lui-même en fait parle d'un grand rapport qui s'appelle le facteur Athéna, The Athena Factor. Qui est un grand rapport qui a été qui a évalué comme ça la question des expériences des femmes au milieu de travail et notamment dans les milieux de travail qui sont dominés par les hommes. Et donc je vais te dire, ce rapport c'est un peu long, c'est 150 pages. J'ai pas absolument tout lu, j'ai surtout en fait essayé de chercher la méthodologie de ce rapport que j'ai trouvé dans les annexes. Ça fait une page sur 150, c'était un peu maigre malheureusement. Mais en fait, quand on lit ce rapport et la méthodologie associée, c'est une série d'anecdotes en fait. C'est une série de femmes qui, voilà, ils ont été interviewées une série de femmes et elles expliquent leurs anecdotes personnelles dans leur carrière et dans les milieux de travail dans lesquels elles ont travaillé. Hein, donc des interviews, des questionnaires, des focus groups comme ça, hein, où ils ont des réunions où les femmes parlent. Et le gros problème de cette façon de faire, et ça je le lis dans la méthodologie, c'est que bon déjà on connaît pas les questions de l'enquête et on sait à quel point ça peut être, on peut mener une réponse, on peut, comment on dit, lead the question, je sais
ouais,
pas,
c'est ça,
ouais.
Guider la question.
Guider la question, voilà, enfin guider la réponse en l'occurrence. Donc ça c'est important, mais surtout le rapport se focalisait sur des femmes qui ont travaillé dans le domaine des sciences et technologies, mais qui ne sont pas nécessairement encore actives dans ce domaine-là, qui ont peut-être quitté ce milieu-là. À mon avis, ça fait un gros biais, parce que si tu prends toutes les femmes qui sont sorties de là parce qu'elles ont eu des scénarios de discrimination, bah, tu ne représentes que ces femmes-là et tu perds toutes celles qui se sentent très bien dans leur boulot et qui ne sont pas représentées dans le rapport. Donc voilà, et puis bon, voilà, c'est un rapport, c'est pas une étude scientifique publiée dans un journal avec comité de lecture. Donc c'est pas, voilà, la qualité de l'argument n'était pas incroyable. Et puis en plus, Berman, quand elle cite l'article d'ABC News qui lui-même fait l'analyse du facteur Athéna, l'article d'ABC News parle d'autres études qui ont été faites, pas seulement Athéna Factor, mais d'autres. Et qui vont un peu dans le sens contraire, quoi. Notamment, il y a une autre étude qui est citée dans l'article d'ABC News qui dit que les femmes mettent plus souvent la priorité sur leur famille que les hommes. Bon, on peut vivre là de la discrimination, je sais pas, personnellement c'est pas mon cas, et cette étude-là, notamment, et j'ai été la lire aussi, c'est un peu plus sérieux, quoi. C'est pas des anecdotes personnelles, ce sont des données tirées d'une seule source, il y a des statistiques qui sont faites. Bon, bien sûr, on peut jouer avec les stats, mais en tout cas, elles ont le mérite d'avoir été faites. La méthodologie est plus détaillée, c'est publié dans un journal scientifique, et ça cite d'autres sources. Donc voilà, il y a un peu de cherry picking dans l'article de Berman. Alors, Et en fait, on se rend compte que pas mal d'autres sources qu'elle cite pour défendre son point de vue sont en fait une collection d'histoires personnelles et d'anecdotes. On dit souvent dans le milieu sceptique que le plus réel d'anecdotes, c'est pas des données ou c'est pas des preuves. Donc, à mon avis, c'est pas extrêmement, extrêmement fort comme argument. Il y a d'autres facteurs qui ne sont pas pris en compte, mais que certains discutent sans les avoir étudiés précisément, et qui pourraient expliquer une partie de cette différence de 5 cents. Alors, cette différence de 5 cents, elle varie un petit peu entre les études. Il y a un autre rapport de 2009 du département du travail américain qui dit que la différence se situe quelque part entre 4,8 et 7 centimes. Et pour expliquer une partie en tout cas de ces différences, il y a un facteur qui est cité mais pas contrôlé, c'est les compétences de négociation salariale. Le fait que simplement les femmes sont peut-être moins bonnes à négocier leur salaire que les hommes à l'embauche, et donc elles se retrouvent d'emblée avec une petite différence salariale simplement pour cette cause-là. C'est pas une question de discrimination, c'est simplement une question que elles ont peut-être moins le moteur de la testostérone et
les hommes sont plus agressifs.
Voilà, il y a une question d'agressivité, de compétitivité, de compétition, esprit de compétition chez les hommes qui sont peut-être moins présents chez les femmes. Et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Hein. L'agressivité, c'est peut-être pas non plus forcément une qualité dans le milieu du travail. Donc il y a ça. Alors il y a d'autres choses que Summers cite aussi comme problème, c'est que par exemple dans la façon de catégoriser les jobs, parce que Jean-Michel disait voilà, c'est pour un même boulot, même heure prestée, et c'est ça qu'il faut regarder, et effectivement il faut d'abord savoir ce que c'est un même boulot, et on fait des catégories en général, et notamment dans le rapport de l'Association américaine des femmes universitaires. Il y a une catégorie sciences sociales où il y a une différence de 18%, donc c'est pas rien, sauf que sciences sociales, ça englobe à la fois économie et sociologie. Donc deux branches où quand même les différences de choix sont quand même assez flagrantes. On peut encore évidemment revenir sur l'argument de Berman que les choix eux-mêmes sont contraints, mais c'est, voilà, ça reste à prouver. Encore d'autres effets, ça c'est, je ne l'ai pas lu dans un article, c'est en fait quelqu'un qui a raisonné sur la page éthique, qui parle d'un effet un peu de génération. Donc il y a deux façons de voir cet effet génération. Soit que les travailleurs qui ont maintenant dans la cinquantaine sont eux-mêmes issus d'une génération où il y avait beaucoup plus de sexisme et peut-être traînent encore ça derrière eux, avec eux dans leur boulot. Et donc c'est un peu difficile de comparer des salaires de ceux des personnes qui viennent de sortir de l'université ou d'école en général et ceux qui travaillent déjà depuis 30 ans. L'autre effet, un peu génération, c'est, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que au long de leur carrière, les femmes prennent plus souvent des pauses, ça joue dans leur progression de carrière et donc dans leur salaire, et on se retrouve avec plus tard plus de différences que ce qu'il y avait à la base. Il y a d'ailleurs une étude, j'essaie de la retrouver, mais j'ai lu une étude là-dessus qui expliquait exactement ce truc-là. Je sais plus, il faudrait que je retrouve dans mes notes, mais ça disait en gros que ça avait suivi en fait des jeunes universitaires qui venaient d'avoir leur diplôme et qui les suivaient vraiment pendant plusieurs années et qui montraient qu'au tout début de leur carrière, ils avaient en fait le même salaire, avec une minuscule différence qui est probablement expliquée avec cette histoire de négociation de salaire, mais que surtout au fil du temps, 10 à 15 ans plus tard, on avait des différences qui pouvaient monter jusqu'à 40%, mais qui à ce moment-là s'expliquaient avec le fait qu'il y a moins d'heures prestées chez les femmes, plus de pauses carrières, les congés de maternité bien sûr. Voilà.
Où est-ce qu'il faudrait différencier d'une discrimination du type le patron ne promeut pas la personne à un poste plus élevé parce que c'est une femme et il choisirait... Enfin, moi, je suis pas du tout dans ce genre de milieu-là, parce que, en étant prof, mais on pourrait imaginer le patron, et puis il a le choix entre deux candidats à promouvoir, un poste à responsabilité, et il choisirait systématiquement les hommes plutôt que les femmes. Quoi. Ce serait une forme de discrimination claire et évidente, quoi. Mais, ici, ce serait juste un résultat, une sorte de produit dérivé de, voilà, du fait que, que les femmes s'occupent plus, voilà, plus de leur famille.
Un conflit entre carrière et famille, quoi, et que c'est souvent chez les femmes qu'on retrouve un intérêt plus fort vers la famille que vers la carrière.
Mais il faudrait voir ici ce que les féministes en pensent, enfin ce que certains féministes en pensent, parce que je pense qu'il y en a qui diraient c'est aussi problématique, quoi, que les femmes s'occupent plus de leur famille que les hommes, et, ou alors il faudrait quasiment leur donner un bonus pour contrebalancer le fait qu'elles doivent s'occuper de leur famille, ou contrebalancer cet effet financièrement parlant, quoi.
Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que dans une des sources que j'ai lues, certains disaient qu'il fallait tenir compte non seulement du salaire, mais de l'ensemble des compensations qui existent pour les hommes et les femmes. Et apparemment, il existe des situations aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit comme ça chez nous en Belgique, parce qu'on a des congés de maternité, mais il y a des entreprises, des situations où les femmes choisissent des métiers qui payent moins bien à la base, mais qui ont des congés de maternité payés, qui sont offerts par l'employeur, qui sont payés par l'employeur. Et donc cet article, je ne l'ai plus devant moi, mais disait qu'il faut tenir compte de tout ça, et que dans certaines situations, si tu prends en compte non seulement le salaire, mais l'ensemble de toutes ces compensations, tu réduis cette différence à quasiment rien, quoi, à zéro. Bon, maintenant, est-ce que c'est effectivement une... Bien sûr, pour les États-Unis, c'est une compensation non négligeable d'avoir un congé de maternité payé. Je ne connais pas du tout la situation en... Enfin oui, je sais qu'en Belgique, on a des congés de maternité payés. Je viens d'avoir un enfant, je suis bien placé pour le savoir. Mais donc, on ne pourrait pas avoir ce genre de situation. Mais aux États-Unis, ça existe. Est-ce qu'il faut considérer ça maintenant comme une compensation? Est-ce que c'est positif? J'ai l'impression que oui. Mais maintenant, comme tu dis, est-ce que c'est une discrimination que les femmes sont plus souvent orientées vers leur famille que les hommes? Ou c'est juste peut-être le résultat de notre biologie? Je ne sais pas. Hein.
Oui, enfin, de toute façon, ça, c'est les débats plus idéologiques, je pense. C'est pas vraiment des discussions qui peuvent vraiment trouver une solution vraiment scientifique, je dirais. Enfin, en tout cas, parce qu'il y a des jugements de valeur, quoi. Juste pour revenir sur Summer, c'est la question des choix, parce que c'est quand même des choix de carrière, parce que c'est quand même un point important. Je pense que elle a une approche. Bon, je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche, donc je dirais ma façon dont je comprends ce qu'elle pense, c'est que finalement, bon, aux États-Unis en tout cas, les femmes sont extrêmement favorisées. Bien sûr, elle considère ça un peu comme insister sur les problèmes des Américaines, c'est souvent un first world problem, hein, c'est des problèmes du premier monde. Hein. Pour donner un exemple, il y avait une pub que j'aimais bien pour des problèmes du premier monde, c'est quand on demandait à des Africains qui vivent dans des pays très pauvres de lire des tweets du genre « Oh, j'ai pas de Wi-Fi dans ma chambre ». C'est les problèmes du premier monde, alors que l'Africain en question n'a pas accès à l'eau, etc. Quoi. Donc souvent, sa mère, elle a ces réflexions-là. Elle dit « Ben voilà, les Américaines, elles ont des choix de métier. Elles ont le choix entre toutes sortes de choses, l'informatique, l'ingénierie, la psycho. » Et elles choisissent de faire plutôt la psycho, par exemple. Bah, c'est quelque chose de positif, quoi. En fait, c'est juste une question de elles ont la liberté de choix, quoi. C'est ça qui compte. Et puis après, elles font un choix. Mais finalement, le problème, c'est est-ce que si on tient un discours différent, est-ce qu'on blâme pas en disant, oh, c'est toutes ces femmes qui font la psycho, elles ont tort de faire la psycho, elles devraient tous aller en physique et maths, quoi.
Ouais,
c'est
ouais.
Un peu blâmé. Elle avait fait une bonne vidéo sur la question des publicités, par exemple, avec où on blâme beaucoup les fillettes qui veulent jouer avec des poupées. Hein. On leur dit, ben non, il faut jouer avec
des camions.
Avec des camions et des mécaniciens. Elle disait, oui, d'accord, il faut encourager les femmes qui ont envie de faire des sciences et des maths et de l'informatique. En tout cas, elles vont avoir la possibilité de le faire dans des conditions équivalentes, avec le même salaire, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas non plus dire aux femmes, aux fillettes qui choisissent de jouer avec des poupées, non, t'es une mauvaise fillette, tu ne devrais pas choisir de jouer avec ça.
Ouais, ouais.
Et en gros, avec ce problème de choix de carrière, c'est un truc similaire, en disant, oh, toutes ces femmes qui choisissent d'être des institutrices, etc., on va les blâmer pour ça. Mais non, mais les institutrices, c'est un métier mal payé, c'est un métier de femme. Vous devriez plutôt aller dans les métiers de l'informatique, voyons, parce que c'est nettement...
Oui, oui, oui. C'est une drôle de réflexion aussi. Ce serait plutôt plus intéressant de valoriser le métier d'enseignant, qui est, à mes yeux, extrêmement important, qui n'est pas du tout assez valorisé. Et je pense que c'est pareil chez nous, en Belgique, en Europe, et aux États-Unis plutôt que de, effectivement, de dire que c'est mal de choisir le métier d'enseignant. C'est vrai. Une chose importante aussi que Summers dit, c'est que, bon, ça paraît évident, je vais peut-être dire un truisme, mais c'est pas une question de compétence, évidemment. Elle insiste bien que c'est pas l'idée que les femmes sont moins douées pour faire l'informatique ou les sciences. Elle pense que les femmes sont toutes autant douées, je le pense aussi d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment les choix uniquement.
Oui, surtout maintenant, en fait, les femmes réussissent mieux à l'école, à l'université, etc.
Oui, oui.
Et donc, c'est difficile de tenir un discours on leur restreint le choix. Non. Alors, évidemment, il y a la question du libre arbitre, quoi. On serait vraiment conditionné. Enfin, bon, la culture et la biologie nous feraient faire des choix X ou Y, mais c'est un peu pour tout ça. Enfin bon, c'est vraiment la question du libre arbitre, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour les hommes, ça serait la même. On pourrait tenir le même discours.
Absolument.
De toute façon, pour les hommes, je veux dire, les hommes, on nous prédisposerait, on nous dirait, bah oui, un homme, c'est un mécano, il doit pouvoir réparer une voiture. Quoi.
Ouais,
si
ouais.
Tu peux pas réparer une voiture, t'es pas un vrai homme.
Ouais, d'ailleurs, j'ai noté, parce qu'il y a un article qui notait aussi quel était le top job, donc le job le plus représenté par les femmes et celui par les hommes. Pour les femmes, c'est secrétaire, enfin, ou. Management assistant, enfin je sais plus comment. Il s'appelle plus vraiment secrétaire, mais assistante de quelque chose. Et pour les hommes, c'est conducteur de camion, aux États-Unis. Hein. Donc on voit pas beaucoup de féministes se battre pour que les femmes accèdent au métier de conducteur de camion. Donc c'est juste parce que c'est pas bien payé, j'imagine, mais.
Oui, et puis c'est un argument classique du mouvement de défense des hommes. Mais, oh, mon Dieu, j'ai prononcé un mot que j'aurais pas dit. Mais je veux dire, de dire que les métiers comme pompiers, flics, ambulanciers, etc., qui sont tous des métiers à risque, où tu mets ta vie en danger, sont tous des métiers tenus massivement par des hommes, militaires, etc. Alors qu'évidemment, les féministes, ils disent, bon, peut-être qu'elles voudraient qu'il y ait 50% de femmes dans l'armée, mais... Et encore, je ne suis pas sûr, je ne vois pas beaucoup ça, mais j'ai toujours dit, ben voilà, les féministes veulent avoir une représentation égale entre hommes et femmes dans certaines disciplines, dans l'informatique, mais pas dans les métiers à risque, où là, c'est bon que ce soit les hommes qui les
font. Mais ceci dit, même dans l'informatique, c'est quelque chose qui me... Enfin, je veux dire, je peux comprendre... Évidemment, c'est très difficile à savoir s'il reste de la discrimination ou pas. En tout cas, s'il en reste, apparemment, il n'en reste pas énormément, puisque quand on tient compte de tous les facteurs, on arrive à cette différence de 5 centimes. Si le reste est effectivement dû à la discrimination, d'accord, c'est peut-être bien le cas, et il faut combattre ça par des mesures politiques, des mesures sociales aussi, apprendre aux enfants que le sexisme n'est pas une valeur à défendre. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que si le choix était effectivement 100% libre, qu'on retrouverait effectivement 50% d'hommes et de femmes en informatique, en mathématiques. Personnellement, j'y crois pas une seule seconde. Je crois effectivement qu'il y a des préférences dans certains types de métiers pour les femmes et pour les hommes, et qu'on n'aura jamais une répartition égale dans tous les domaines. Mais je me demande si c'est ça que les féministes veulent, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un but à rechercher? Est-ce que c'est même désirable, en fait?
Oui, non, c'est clair.
Je sais pas.
L'idée, c'est toujours que ces choix sont dirigés contrôlés par la culture, et la culture est fondamentalement patriarcale.
Ouais.
Et donc, en gros, l'idée, ce serait de changer la culture, quoi. Finalement, je ne sais pas, ce serait plus pour libérer le choix des femmes, quoi, pour qu'elles soient plus conditionnées depuis la tendre enfance à tel métier ou tel homme, mais qu'on libère le choix des hommes. Mais la question, c'est un peu, je veux dire, Oui, c'est ça, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où finalement... ce choix... Oui, et puis il y a la question du biologique aussi, quoi.
C'est la question du biologique. Parce que je me dis aussi, on voit clairement... Bon, moi, je suis né en 85, j'ai pas du tout connu le mouvement féministe, mais si tu vois des documentaires ou tu regardes un peu l'histoire du mouvement féministe depuis les années 60, 70, il y a énormément de changements, énormément d'évolutions dans la mentalité aussi. La société a énormément changé à ce niveau-là. Donc clairement, il y a un mieux, et ça, c'est comme ça depuis 30, 40, 50 ans.
Ce qui est généralement appelé les différentes vagues.
First
wave, second wave, third wave.
Mais la question pour les féministes, c'est quand est-ce que ça s'arrêtera? À quel moment est-ce qu'elles vont considérer que voilà, le féminisme a fait son boulot, on est arrivé à une situation égale, Est-ce que c'est ces 50% de femmes dans tous les domaines? Est-ce que c'est... Je sais pas. Et j'ai peur que si effectivement les choix sont en fait déjà libres ou quasiment déjà libres, et qu'en fait on retrouve des distributions dans les métiers d'hommes-femmes qui sont représentatives réellement de leurs intérêts, le mouvement féministe s'arrêtera jamais, mais n'aura en fait aucune raison d'exister à ce moment-là.
Ouais, parce que pour prendre une situation que je connais bien aussi, c'est la situation japonaise qui est évidemment très différente. Je veux dire, au Japon, c'est clair que si on est une femme, on va aller à l'université. Et puis après, on va rentrer. Bon, le modèle classique, mais enfin, c'est encore très vrai au Japon. Hein. On va rentrer dans une entreprise et ce qu'on va faire, c'est secrétaire dans l'entreprise. Ce job de secrétaire consistera principalement à amener du café dans les salles de réunion. Parce qu'il y a des vrais. C'est pas secrétaire dans le terme de prendre note, ça c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et alors, une fois qu'elle. Je veux dire, pour les femmes japonaises, c'est actuellement toujours impossible de. En fait, quand elles se marient, elles doivent démissionner de leur travail systématiquement, parce qu'il n'y a pas de crèche, de toute façon. Et je veux dire. Donc, les femmes japonaises ont vraiment un choix, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Soit elles disent. Elles font un début de carrière qui, si elles sont dans une grande entreprise japonaise à Tokyo, ça va être apporter du café aux salles de réunion. Elles font ça jusqu'à 30 ans, puis elles se marient, et puis elles sont femmes au foyer. Et puis, à l'inverse, je veux dire, si elles décident. Bon, il y a pas mal de japonaises actuellement qui décident de ne jamais se marier, et donc elles font une carrière sans jamais avoir d'enfant, quoi. Mais il y a vraiment un choix clair et net. Je dis toujours à mes élèves de japonais, la situation n'est pas plus enviable pour les hommes, puisque les hommes, au contraire, ils vont travailler 6 jours et demi par semaine jusqu'à 11 h du soir, et ils verront pratiquement jamais leur famille. Ils s'épuiseront au travail pendant toute leur vie et puis ils mourront d'une attaque cardiaque à 55 ans avant de prendre leur retraite. De toute façon, ils n'auront pas de retraite. Donc. Je ne sais pas si. Mais bon, ça, c'est la situation sociologique japonaise à l'heure actuelle que je constate toujours, quoi. Je veux dire, chez tous mes amis japonais qui habitent au Japon, évidemment. Beaucoup de japonaises. Oh, oui, il y a un troisième choix en fait pour la japonaise, se marier avec des occidentaux et venir en Occident. Pour échapper
ouais. Et où là le choix ne sera pas mutuellement exclusif pour avoir des enfants et travailler.
Mais donc c'est vrai que c'est voilà, on a une situation au Japon qui est absolument qui était probablement celle qu'on avait chez nous il y a 50 ans et qui est toujours vrai au Japon. Et c'est vrai qu'on se dit ben ouais, ils ont fameusement du chemin à faire quoi, c'est de ce côté-là, et c'est pour ça que je pense que enfin c'est. Encore une fois, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Summers, mais souvent c'est ça, quoi. C'est le problème. Les Américaines, elles prennent souvent. Ces féministes, souvent, c'est des féministes qui ont grandi et qui ont été enfin, dans les grandes universités américaines, hein, qui ont un très haut niveau d'éducation et qui se vivent comme étant fondamentalement opprimées par le patriarcat, alors qu'elles sont en fait dans un des pays où la situation des femmes est un des plus avantageux au monde, quoi. C'est vrai que c'est.
Oui, enfin, sur ce point-là, quand même, j'ai lu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Dawkins qui avait fait une remarque disant, en gros, aux féministes américaines et diplômées, et voilà, et arrêtez un peu de vous plaindre, il y a des femmes qui continuent à être mutilées en Afrique, et il s'était complètement rentré dedans. Et bon, il n'a pas tout à fait tort, si on veut comparer effectivement la gravité de certaines situations, je pense qu'on peut dire objectivement que. Une excision, enfin être excisée et contrainte à rester à l'intérieur de sa maison toute sa vie, c'est quand même nettement moins bien que la situation américaine. Donc ça, c'est pas la question, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il existe des choses graves ailleurs qu'il faut pas corriger les choses peut-être moins graves qui existent à côté de chez nous. Là, je suis d'accord aussi sur le principe, quoi, mais voilà.
Ouais, non, c'est clair. Mais bon, finalement, aux États-Unis, on pourrait imaginer que le problème du racisme. En fait, c'est à ce moment-là que de prendre des critères objectifs pour essayer de mesurer et d'évaluer la situation devient vraiment important, quoi. Pour imaginer que le problème du racisme soit objectivement beaucoup plus grave, enfin, je sais pas, que les problèmes évoqués par les féministes, quoi. Mais, oui, de toute façon, c'est des choses extrêmement complexes. Mais juste pour dire sur Summer, c'est vrai que moi je l'ai découvert il y a quelques temps déjà. C'était DJ Grotti, en fait, l'ex-président de TAM, enfin du Amazing, de l'organisation de James
Randy,
Randi, qu'il avait conseillé, parce que. Oui, enfin, voilà quoi. Enfin, je ne sais plus si tu te souviens de cette histoire. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, Rebecca, en fait, il y avait eu des accusations comme quoi, aux conférences organisées par James Randi, certains sceptiques harassaient sexuellement les femmes. Et alors, Rebecca Watson avait justement dit que. Il y avait eu des tentatives d'attaque sexuelle, enfin, ou de harcèlement sexuel à table, et que DJ Grotti, qui était responsable, puisqu'il était président à l'époque, ne s'en était pas occupé sérieusement, quoi.
Ouais, ouais.
Et alors, elle avait demandé sa démission à ce moment-là. Pour rappel, DJ Grotti aussi, il est homosexuel, hein, juste pour dire, c'est toujours vérifier votre privilège. Il n'est pas non plus dans la majorité hétérosexuelle blanche, enfin, c'est quand même un homme blanc, mais... Enfin bon, c'était cette histoire-là, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était la grande époque des... D'ailleurs, Rebecca Watson avait arrêté d'aller à TAM à cause de ça. Finalement, d'ailleurs, pour faire un follow-up sur cette histoire, sur le coup, James Randi n'avait pas renvoyé DJ Grotti, mais il y a quelques mois, il a été mis de côté. Parce qu'en fait, les rentrées financières de l'association de James Randi étaient en chute libre. On suppose, bon, il n'y a pas beaucoup de transparence de ce côté-là, mais un effet sceptique comme ça, voilà. Et ouais, alors je lui avais demandé, parce qu'il essayait de se défendre en disant, bah oui, moi j'aime bien les féministes, alors quelles féministes t'aimes bien? Et alors il avait cité Christiana F. Summers. Donc c'est comme ça que je l'avais découvert. Et c'est vrai qu'une des choses que j'aime bien, parce que souvent les féministes américaines, elles disent, il faut vérifier ton privilège, hein, donc si t'es un homme blanc... t'as ton opinion, enfin tu ne peux pas parler au nom des femmes noires, par exemple, en fait, etc. Et par exemple Richard Dawkins, c'est un homme blanc, voilà, donc c'est fini, quoi.
Britannique en plus.
Ah oui, britannique en plus. Et Christina F. Summers, dans ses vidéos, elle aime bien dire check your facts, not your
privileges.
Ouais, vérifiez vos faits plutôt, vos privilèges. Mais malgré tout, voilà, on aura fait un épisode sur elle, mais moi je pense que sa démarche, justement, c'est vrai, moi j'avoue que je suis assez fan, je dis pas que tout ce qu'elle fait est parfait, parce que tout ce que fait personne n'est parfait, mais je trouve qu'elle a une démarche qui me semble plus, enfin, raisonnable, entre guillemets, en tout cas elle cherche, elle essaie de s'ancrer dans les faits, quoi, dans les données empiriques, voilà. Ou en tout cas de bien vérifier la littérature. Maintenant, ça est quand même vachement détesté par les féministes, il faut quand même le préciser.
Ouais. Elle a l'air de ne pas avoir beaucoup de fans chez les féministes.
Greta Christina, qui est une des sceptiques aussi, enfin, qui est au centre of Inquiry, elle l'avait mis sur une liste de surveillance. J'ai oublié. Mais enfin, elle avait une liste, c'était un warning pour vérifier tout ce que tweetait Christina F. Summers pour voir. Enfin, elle est vraiment persona non grata. Hein.
Mais c'est la limite de l'obsession, ça.
C'est comme ça que ça marche.
Ouais.
C'est vrai que. Et je te l'avais dit une fois que tu étais venu, comme je retweet parfois sur Twitter. Christina F. Summers ou Thunderfoot ou DJ Grotti, j'avais été mis dans leur liste de surveillance en troisième catégorie. J'étais sympathisant avec les mauvaises personnes. Donc c'était. Enfin voilà. Bah voilà, j'espère que ça aura intéressé les. Que ça n'aura pas offusqué trop de monde. C'est quelques personnes.
Bah non, je pense qu'on a été le plus objectif possible. Voilà, on a cité les faits, on a donné des impressions personnelles aussi. Bon. C'est un sujet intéressant, c'est sûr. En fait, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de sujets comme ça qui sont intéressants comme ça d'un point de vue de société et qui n'ont pas de lien avec le scepticisme, mais qui sont peut-être encore plus importants à aborder avec la pensée critique, mmh. Avec la méthode, la pensée méthodique, comme dirait Bronner. Parce que ce sont typiquement dans ces sujets-là qu'on crée beaucoup de controverses, il y a beaucoup de débats, les esprits s'enflamment très vite. Et donc, c'est probablement dans ces sujets-là qu'il est le plus important d'arriver d'abord à se mettre d'accord au moins sur les faits de base. Mais je pense que c'est le cas quand même ici, malgré tout, parce que sur la question de la différence salariale, tout le monde est d'accord que le chiffre qu'a donné Obama était faux, mm-hmm. Et qu'on arrive à autour de 5 centimes quand on contrôle pour une série de facteurs. C'est juste qu'à partir de là, il y a les deux camps. Ceux qui pensent que les 5 centimes, il y a d'autres facteurs plus subtils et difficiles à contrôler, et peut-être de la discrimination, et d'autres qui pensent qu'il y a d'office de la discrimination. Et donc c'est vrai que le camp, le deuxième, a l'air un peu plus idéologiquement ancré que le premier.
Et ouais, puis moi, ouais. Je sais pas, je pense que Encore une fois, si on, quand on écoutait en summer, je pense qu'il y a cette 5% de différence de salaire. Finalement, son message, c'était de dire, bah voilà, le chiffre donné par Obama est faux, il est beaucoup trop important. En réalité, on en est à 5%.
Oui, ouais, 5 centimes.
5 centimes, voilà. 5
bon, ça fait 5%, c'est par dollar, donc
ouais, ça fait 5%. Et donc c'est ça, en fait, c'est une question d'avoir le chiffre exact, quoi. Et puis voilà, donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une vraie différence salariale, quoi. Un vrai écart salarial, simplement il est plus petit que
ce qui est cité.
Voilà,
mais bon, après par contre, il y a quand même la question des conséquences. Je veux dire, si ces 5% sont effectivement le résultat d'une discrimination, ça demande un appel aux politiques pour prendre des mesures qui vont effacer cet écart restant. Si c'est pas le cas, par contre, ça ne demande rien du tout. C'est juste qu'on n'a pas pu contrôler. Mais du coup, ça a quand même des conséquences sociétales, parce que soit on va prendre des mesures, faire passer des lois éventuellement, soit pas. Et si on le fait à raison, c'est bien. Si on le fait à tort, c'est mettre des contraintes pour rien. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est pour rebondir sur ce que tu disais avec la question de... c'est une question qui ne touche pas au scepticisme. C'est toujours le problème, est-ce qu'on utilise le scepticisme pour aborder des questions politiques. Je crois qu'il faut juste bien différencier les moments où on est dans des informations factuelles. Pendant tout un temps, on a cité des études, des résultats d'études, etc. Bien faire servir de la littérature, c'est la partie sceptique du bazar. Mmh. Après, il y a quand même des jugements de valeur qui interviennent dans le reste de l'interprétation qui est faite, quoi, ou qu'est-ce qui est évalué comme étant un problème versus pas un problème. Donc, je pense que c'est... Richard, mon voisin, a toujours beaucoup poussé dans la mouvance de Jean-Brick Mont, etc., à un scepticisme... appliqué à la politique. Moi, avant, j'étais assez réticent. Maintenant, ma position, c'est de dire, en fait, on peut pas trop... C'est quasiment impossible d'y échapper. Justement, je pense... je veux dire, c'est les problématiques autour du féminisme, maintenant, aux États-Unis et dans le mouvement sceptique, à cause de ça, sont vraiment... c'est un terrain... c'est un champ de bataille culturel.
Mais c'est vrai.
Je veux dire, les sceptiques sont pris dedans, qu'on le veuille ou non. Quoi.
Oui, donc, de toute façon.
Donc le féminisme, ces débats autour du féminisme. Pour ça que j'ai dit, discutons. C'est toi qui avais traduit les articles, mais j'étais d'accord pour qu'on en parle sur le balado, parce que finalement, on est obligé un peu, il me semble, d'engager le débat.
Oui, on est obligé. Et puis c'est pas seulement une question de scepticisme, c'est une question simplement de. C'est un peu tout l'esprit du scepticisme, c'est une certaine forme de rigueur intellectuelle finalement, hein. Si on voulait le résumer le plus vite possible, c'est peut-être ça. Et ça s'applique pas seulement au féminisme, récemment il y a Zemmour avec son souci de français, toute la question de l'immigration, et tous ces chiffres qui sortent. J'ai lu un autre article qui montrait que ces chiffres simplement étaient faux, je connais plus du tout les détails, mais... c'est aussi encore un sujet qui n'a rien à voir à la base avec le scepticisme, mais qui demande quand même un minimum de rigueur intellectuelle, hein, d'objectivité, et c'est ce que la pensée sceptique, la méthode scientifique, tous les critères de la réflexion objective qui doivent s'appliquer également.
Ouais.
On a souvent, il y a parfois sur la page éthique des sujets sur le végétarisme qui sortent de temps en temps. C'est un sujet très chaud, hein, ça
toutes
parle
toutes
beaucoup.
Les semaines, on a des sur le végétarisme toutes les semaines.
Ça s'enflamme, mais y a aussi un noyau objectif sur lequel on peut partir avec ça. Il est plus petit peut-être que pour d'autres, mais je sais pas, quand l'argument dit on peut pas se passer de viande, biologiquement, j'en sais rien, ou on peut, c'est une question factuelle, on peut y répondre.
Oui, et puis moi je dis toujours que dans le scepticisme il y a aussi la composante philosophique. Hein. Sur le végétarisme il y a des problèmes d'utilitarisme, des théories philosophiques qui peuvent être invoquées. Même en politique finalement on peut invoquer de la philosophie politique, etc. Mais c'est vrai que simplement je pense que moi souvent. Pour le féminisme, c'est vrai que honnêtement avant toutes les histoires avec Rebecca Watson je m'y intéressais pas. Finalement, avec tous les conflits qu'il y a eu dans la communauté sceptique sur le sujet, j'ai fini par m'y intéresser. Mais c'est vrai que maintenant, je suis assez vraiment passionné par le sujet. Je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant, en fait. C'est un sujet finalement très complexe, quoi. C'est toujours comme beaucoup de sujets, hein, dans le
finalement, je crois que moi j'ai souvent envie de dire aux gens sur le paranormal, etc. Vous savez, tous ces sujets-là, ils sont vraiment complexes, quoi. Les gens arrivent vite à des conclusions. Moi, je vois toutes ces données, je lis ces articles, enfin, dont on vient de parler, etc. Et souvent, voilà, c'est difficile finalement, c'est pas facile de se faire une opinion.
Non, c'est pas facile. Déjà, ne fût-ce que passer. Il y a des chercheurs qui passent, voilà, qui travaillent carrément là-dessus, ils en font leur carrière limite, des chercheurs en sociologie, en économie, voilà, qui publient et tout. Et pour un citoyen lambda, ne fût-ce qu'aller lire une série de sources, ça prend déjà pas mal de temps, quoi. Et on se rend compte, effectivement, en lisant, que c'est pas aussi simple, il y a des tas de facteurs à prendre en compte, certains qui sont même pratiquement extrêmement difficiles à contrôler dans les études. Voilà, c'est un sujet complexe et c'est clair que c'est pas
Je sais pas si c'est plus fort dans ces domaines-là que dans d'autres domaines, mais je pense que les sujets qui sont intensément passionnels, comme le féminisme ou le végétarisme ou enfin, l'immigration, ces sujets-là, je crois que le biais de confirmation, qu'on a tendance à lire ce avec quoi on est d'accord. Ouais. C'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui, parce que t'avais pris deux articles contradictoires, alors c'est bien, on a vraiment deux points de vue différents. Ouais. Je pense que, même moi, j'essaie toujours de faire l'effort, enfin, il faut vraiment faire un effort sur soi de dire, ben oui, j'ai ces idées qui traînent dans ma tête, alors je dois essayer d'aller lire les gens qui sont en désaccord avec ce que moi je pense.
Oui, absolument. Mais c'est très difficile à faire, hein. C'est extrêmement difficile à faire. Oui. C'est vrai que j'ai pris deux articles qui donnent des points de vue contraires, mais bon, je pense que c'est assez clair que dans notre discussion, là, il y a une préférence pour celui de Summers, il me semble. Enfin, en tout cas, sur l'approche qui a l'air plus raisonnable, ben, est-ce que c'est aussi un peu de confirmation? Je ne sais pas. Je lisais un article sur la pensée sceptique et qu'est-ce qu'il est intéressant de faire si on veut se dire sceptique. Et le conseil qui était donné, c'était, avant d'aborder un sujet nouveau, d'écrire tous les a priori qu'on a sur ce sujet, et puis après d'aller lire, d'aller les confronter, et de voir comment ces a priori ont évolué. Et c'est vachement intéressant. Je l'ai pas fait ici vraiment pour ce sujet-là, parce que j'ai traduit cet article un petit peu out of the blue. Je m'étais pas intéressé au sujet avant. J'en ai fait un autre. J'ai lu un petit peu de façon très naïve, mais donc je l'ai pas fait. Mais je pense que si j'avais dû le faire, j'aurais dit qu'il n'y a pas de discrimination. Mais je suis moi-même, je suis sorti de l'UNIF en 2008. J'étais en ingénieur, bon, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais j'ai jamais vu ça comme un problème de discrimination. Je pensais effectivement que c'était une question de choix, donc pour moi c'est une question de choix. J'ai jamais vu de problème de différence de compétences, certainement, entre les hommes et les femmes pendant mes études. Et dans tout l'état d'esprit aussi, enfin, il n'y avait pas il n'y avait pas du tout dans mon expérience une mentalité de rejeter les femmes. Au contraire, il y en avait tellement peu, on préférait les avoir près de nous. Mais, et donc, cette expérience personnelle, façonne un peu ma façon de penser sur le sujet du féminisme. J'ai l'impression que la discrimination, ça n'existe pas. Je crois que je me trompe maintenant en lisant un peu sur le sujet, que ça existe effectivement. Hein, parce que malgré tout, j'ai dit que les arguments de Berman, c'était beaucoup d'histoires personnelles, des anecdotes, mais même si ça n'a pas valeur de preuve, c'est quand même des histoires qui existent vraiment. Donc voilà, ça modifie sa façon de penser. Donc
voilà. Mais quand on commence à s'intéresser sérieusement au sujet, c'est vrai que bon, y a des choses comme par exemple, c'est vrai qu'en psycho, quand j'ai un séminaire doctoral, je crois que le dernier que j'étais allé, il y avait 22 femmes et 2 hommes, hein, donc ça m'a mis une idée de comparaison. Mais par contre, évidemment, les profs en psycho sont quand même encore et toujours
des hommes.
Des hommes. Ouais. Je pense que c'est quand même en train de changer, il y a de plus en plus de femmes, mais bon, voilà quoi. Ouais. Donc on se dit, oui, bah, en tout cas, on serait dans une période de transition de ce côté-là, quoi. Oui. Où je me dis, on voit bien d'où l'idée qu'il y a des... Enfin voilà, je prends un autre exemple dans le milieu des arts martiaux, parce que ça m'intéresse. En Aïkido, voilà, dans ma fédération, il n'y a aucun prof qui est féminin. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femme qui pratique. Hein. Et quand il y a une femme qui pratique, on lui fourque toujours le cours enfant, quoi. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme correcteur de ça.
Parce que dans pas mal de sports, simplement, les hommes sont dans une ligue, les femmes dans une autre. Parce que bon, il y a des différences aussi de physique. Pas le cas dans les arts martiaux aussi ?
Non, dans les arts martiaux en général, ça pourrait être le cas. Dans l'aïkido, non, parce que justement, l'aïkido est supposé, je dis bien supposé, mais en tout cas, supposé être exécutable sans force.
Ah, oui. Et c'est vrai que la souplesse devrait favoriser largement. Il y a peut-être la taille, mais même, je pense même pas. Donc, à mon avis, une femme. Enfin, moi, je serais très intéressé d'avoir un prof femme actuellement, en fait, juste pour les raisons que je viens d'énoncer. Non, je pense que c'est vraiment un biais de sélection des profs.
Bah, surtout que si c'est un truc qui doit s'exécuter sans force, ouais. Une femme serait plus douée à faire, puisque elle est physiquement moins forte qu'un homme.
Donc, moi, je pense. Il y a des mécanismes de sélection qui sont malheureux, quoi. Ouais, et je le vois même dans d'autres disciplines. J'ai pas mal d'amis karatéka, et alors les hommes ont des dojos, et puis j'avais une élève de japonais qui me dit: oh, je suis prof de karaté. Je dis: ah, c'est bien, tu es une prof féminine de karaté. Elle me fait: oui, en fait, le dojo, c'est le dojo de mon mari, mais ça m'arrive aussi de donner des coups. Et je dis: ah, ok, ouais. On a quand même bien. Donc, il y a quand même... Mais bon, là, on pourrait dire le karaté, c'est vrai que c'est plus physique.
Et puis bon, il y a peut-être une histoire aussi. Allez, ce sont des pratiques ancestrales et qui traînent toute une histoire machiste, hein, malgré tout. Hein, ça s'inscrit dans des sociétés patriarcales depuis des millénaires, ouais, peut-être.
Mais bon, est-ce qu'on ne devrait justement pas dépasser ça? Enfin, c'est toujours. Est-ce que...
Donc,
on dit dans une société où on dit on n'a plus de discrimination de ce type.
Mais certainement, mais ça met du temps, ça met du temps.
C'est juste un exemple comme ça parce que voilà, j'ai réfléchi au sujet. Et puis quand tu te mets à observer, tu remarques des choses de genre là, quoi, autour de toi, et tu te dis ouais, c'est vrai qu'il y a quand même donc non, moi je pense pas que j'aurais dit qu'il y avait pas de discrimination. Je pense que j'aurais pensé qu'il y en avait.
Oui, je parlais dans le milieu du travail. Hein, ouais, dans la question de la question uniquement des salaires. Hein,
j'avais tout à fait bien compris. Non, mais je dis au niveau.
Pas en général. Hein.
Ouais. Mais moi, je pense. A priori, je pense que j'aurais dit. Effectivement, je tire avec la discussion qu'on a eue. Je ne serais pas étonné que, justement, en termes de promotion dans certaines compagnies, oui, etc. Et parmi les profs d'université, c'est certainement ça qui joue. Hein. Il y a eu pas mal de discussions. Par exemple, en philo, hein, on sait que fac de philo, 99% des profs sont des hommes dans le monde. Comme ça. Ouais. Il y a eu des statistiques assez effarantes. Cite-moi un philosophe féminin.
Ouais.
Il y a eu des statistiques, c'est que dans les colloques, si une femme prend la parole, on la perçoit comme moins compétente, etc. Ouais. Il y a un panel avec un homme et une femme au moment des questions-réponses. Il y a eu des études, on pose les questions à l'homme. Enfin, c'est effroyable, quoi. Ça se base sur mes lectures après. Je pense que, a priori, j'aurais certainement dit oui, il y en a, quoi. Mais...
Oui, mais c'est. Évidemment, du point de vue d'un homme, c'est plus insidieux, on le remarque moins parce qu'on a l'habitude. Et ça demande en fait une vraie réflexion. Et ça, c'est peut-être un vrai message aussi du féminisme. Qui s'adresse aux hommes, parce que j'en suis persuadé, des tas d'hommes qui ont effectivement, qui sont féministes en fait, qui sont tout à fait pour une égalité complète de droits entre hommes et femmes. Ça me paraît même assez évident à notre époque, mais les faits de discrimination passent inaperçus en réalité. Et si tu veux être féministe en étant un homme, il faut être un peu éduqué, enfin je veux dire, il faut qu'on te montre un petit peu les choses, parce que sinon tu les vois pas, même si c'est un peu sous tes yeux, quoi. Parce que c'est la question du biais de confirmation, mais aussi du biais de pas voir les choses.
C'est une forme de biais de confirmation, certainement. Tu ne vois pas ce qui n'est pas, quand t'as pas les bonnes lunettes.
c'est certain. Et peut-être que ce qui joue un peu contre une tendance féministe, c'est un peu tout cet état d'esprit, tu sais, d'autocensure, de bien-pensance, genre on peut pas dire certaines choses, même si elles sont vraies. Je crois que ça s'applique clairement par rapport au féminisme. Je pense que pour certains féministes un petit peu plus extrêmes, le fait que Sommers ait simplement dit que la stat est fausse, ce qui est vrai, suffit à déclencher déjà des vagues de critiques et mouvements féministes qui font un peu de l'attaque ad hominem à cause de ça. Et ça c'est un problème. J'ai vu ça en lisant un peu de Sam Harris. Hein. Il s'est fait rentrer dedans pour je sais plus quoi lors d'une conférence. Il avait dit quelque chose sur il avait fait une observation sur le fait qu'il y avait plus d'hommes que de femmes dans la salle lors de sa conférence. Et bon, je sais plus ce qu'il a fait comme commentaire. Et une femme était venue le voir après en lui disant que c'était un sexist pig. et sur son blog, il s'est défendu en disant que c'est pas possible qu'on puisse me dire ça. Il écrit bien le truc et il se défend très bien sur son blog. Je pense qu'il a raison. Et il est victime à ce moment-là de la bien-pensance, en fait. Hein, de self-righteousness, un peu comme on dit. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a de la. Ouais, c'est quelque chose qui m'a. Avec Rebecca Watson, etc., qui m'a fort frappé, où j'ai un peu perdu ma naïveté, même à propos du mouvement sceptique, parce que c'est vrai que ce que tu décris là, en fait, c'est justement un peu des tactiques qui cherchent à être. Un peu à bullying, comme ça. Hein. Ouais. Tu dois te soumettre à un avis. Si tu n'es pas d'accord avec nous, d'ailleurs, c'est très polarisant, et puis. Si tu n'es pas d'accord avec nous, si tu n'es pas 100% avec nous, à ce moment-là, tu es un sexiste, un cochon sexiste. Et alors, il y a beaucoup de. Voilà, enfin. C'est vrai, c'est une sorte d'essayer de forcer les gens à l'adhésion, non pas par la valeur des arguments, mais en disant si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes des êtres humains abominables, quoi, en gros.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même fort choqué, parce que en termes de rhétorique, je trouve ça problématique. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vrai que parfois la communauté sceptique emploie le même genre de stratégie aussi. Avec les tenants du paranormal, par exemple. Hein. Je veux dire, nous, on a raison, mais si vous croyez, aux ovnis, par exemple, c'est parce que vous êtes juste un imbécile irrationnel qui connaissait rien à la science.
Mais ça, c'est l'être humain, je crois. Hein. Je veux dire, c'est très facile de détecter les arguments fallacieux chez les autres, mais quand c'est dans sa propre communauté, là, on a beaucoup plus de mal. Hein.
Et du coup, je pense que depuis, je suis vraiment très sensible à ce genre d'argument. Je dis non, il faut convaincre les gens avec des vrais arguments, mais commencer à essayer de faire du bullying, de soumettre les gens en disant ta position fait de toi un être humain horrible, ou
comment ça s'appelle, ça porte un nom, ça, comment ça s'appelle,
ouais, je sais pas s'il y a un nom pour ces
si il y a un nom
il y a un nom pour toutes les stratégies argumentatives,
bien sûr. Ils ont, je crois que c'est sur. C'est quel podcast sceptique anglophone? Ils ont un épisode Name That Fallacy.
Donc, ouais.
Ils donnent des exemples, il faut trouver le nom de sophisme employé.
Ouais, ouais.
Mais là, je l'ai pas.
Ouais. Mais c'est vrai que quand on tient ce genre d'argument vis-à-vis des tenants du paranormal, en disant si tu crois, je ne sais pas, si tu crois dans tel phénomène paranormal, bon, c'est vraiment basiquement parce que t'es un gros con, quoi. Je veux dire, c'est le même genre de voilà, quelqu'un d'intelligent, de cultivé, de scientifique et de rationnel ne croirait pas à ça. Donc t'es vraiment une grosse merde, en fait. Je veux dire, on n'est pas dans l'ordre de l'agrément, on est une sorte dans l'ordre d'essayer de soumettre. L'interlocuteur, ou dans la culture en général, quoi, la soumettre à la.
Bon, ceci dit, il y a quand même certains cas où.
C'est vraiment un gros con.
J'allais pas te dire ça, mais c'est peut-être la conclusion nécessaire de ce que j'allais dire, mais il y a des cas où t'as beau donner les meilleurs arguments du monde, ça donne rien comme résultat, tu vois. Je veux dire, si. Je pense que dans la communauté sceptique, la position sur l'homéopathie est assez claire. Si on arrive avec un homéopathe à argumenter sur la question de l'homéopathie, à lui donner tous les arguments les plus forts, et qui, à mon sens, paraissent absolument béton et indiscutables, et si ça ne le fait pas changer d'avis, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Mais bon, évidemment, ce n'est pas dire que c'est un gros con qui change les choses. Ce n'est pas ça qui bloque. Il y a d'autres phénomènes psychologiques... très pervers qui font que c'est difficile de changer d'avis, mais voilà.
Quoi qu'il en soit, on a fait un épisode très long, mais c'était notre épisode rentrée, hein, parce que c'est le premier épisode après le nouvel an, et puis Thomas était absent parce qu'il avait un bébé, comme il vous l'a dit à un moment donné. Félicitations.
Merci.
Je te l'ai dit avant qu'on commence à enregistrer.
Oui. Ça prend beaucoup de temps. Je sais pas si je vais pouvoir me tenir avec mes 4 articles par mois, j'essaie.
Surtout un enregistrement d'épisode par mois. À la prochaine pour tous, et puis à la prochaine, Thomas.
À la prochaine.
Et sceptiquement vôtre. Bye bye.
Ciao.